ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة والأخوات، la conférence de ce samedi le 9 avril 2005 a comme titre les femmes promises au paradis. ومعنى هذا العنوان وترجمته إلى اللغة العربية نساء مبشرات بالجنة. J'explique, comme ça on ne comprendra pas mal le titre. La conférence traitera de certaines femmes pour qui Allah subhanahu wa ta'ala a promis le paradis. Et l'objectif principal de ce discours, c'est l'encouragement de chaque musulman et de chaque musulmane à chercher et à acquérir les qualités ou certaines qualités qui ont fait de ces femmes dont je parlerai, inshallah ta'ala, des femmes du paradis, comme a annoncé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tout d'abord, je rappelle que le message de l'islam est avant tout une annonciation, c'est-à-dire ce qu'on appelle al-bishara. هذه رسالة الإسلام الأولية. Il y a plus d'annonciations de bonnes nouvelles que d'avertissements. Le Coran al-Karim est plein de textes qui annonce des bonnes nouvelles pour les croyants et les croyantes. Je donne deux exemples. Le premier, Allah subhanahu wa ta'ala dit: وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةِ الرِّزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلِ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهَا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Et des dizaines et dizaines et dizaines de textes qui annoncent le paradis, qui annoncent le bien éternel pour les croyants et pour les croyantes. Et c'est un principe dans la vie du musulman d'être plus optimiste que pessimiste, de voir les côtés positifs dans la vie plus que ce qui est noir, ce qui est négatif. Sans oublier le côté négatif, mais voir surtout le bon côté dans cette vie, le bon côté chez les gens, le bon côté de la vie sur terre, pour avoir cet espoir en Allah subhanahu wa ta'ala, pour pouvoir construire un avenir meilleur. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, dans le texte authentique, dit « Yassiru » وَلَا تُعَسِّرُوا وَبَشِّرُوا وَلَا تُنَفِّرُوا. C'est un principe même dans le da'wah ila Allah subhanahu wa ta'ala. Que ce soit dans la famille, dans le couple ou dans les sociétés, d'être plus optimiste et d'annoncer les récompenses, d'annoncer le paradis, d'annoncer les bonnes choses qui attendent celui qui pratique le bien et d'éviter le contraire qui est celui de faire fuir les gens. Et ceci a été dit par le prophète sallallahu alayhi wa sallam à certains sahaba qu'il avait envoyé comme du'at pour aller prêcher l'islam au Yémen. Il leur a donné ce conseil comme règle générale: yassiru wa la tu'assiru wa bashiru wa la tunaffiru. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam l'a pratiqué dans sa vie jusqu'à sa mort. Il rappelle aux musulmans, il rappelle aux femmes et aux hommes ces récompenses énormes qu'Allah Azza wa Jal nous a préparées dans le paradis. Et
il rappelle aussi aux musulmans, hommes et femmes, le bien qui les attend dans cette vie. Dans un texte rapporté par Abu Daoud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Bashir al-masha'ina fi al-zulami bin nuri tammi yawm al-qiyama. Bashir al-masha'ina fi al-zulam bin nuri tammi yawm al-qiyama. » Ceux qui vont aller à la mosquée pour prier, pour apprendre, qui vont même dans les moments les plus difficiles, quand il fait noir, que ce soit l'heure de l'Fajr ou à l'heure de l'Isha, à l'heure de l'Maghrib, eh bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur annonce la bonne nouvelle. Et là je vais dire juste un exemple parmi des centaines d'exemples qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il leur annonce cette bonne nouvelle qu'ils auront une lumière complète le jour de la résurrection, surtout quand ils vont traverser le pont pour aller au paradis. Et vous savez que au moment où le restant de l'humanité, de cette communauté musulmane qui arrivera près du pont pour traverser, Allah Azza wa Jal répandra sur tout le monde une obscurité totale. On ne sait même pas où on va mettre nos pieds. Et c'est grâce à ta lumière que tu peux traverser et tu peux voir pour aller de l'autre côté vers le paradis. Le prophète nous annonce et annonce à cette personne-là une lumière complète. Yawm al-Qiyamah. Donc, dans cette introduction, je rappelle le fait, ou l'importance du fait, d'être quelqu'un qui voit les bons côtés dans cette vie et qui garde cet espoir en sa foi et en Allah subhanahu wa ta'ala, et qui regarde l'avenir qui sera meilleur, inshallah subhanahu wa ta'ala. Ne regarde pas ce que tu es aujourd'hui. Ne regarde pas ce que tu vois maintenant, mais regarde pour plus tard. Si tu suis vraiment la foi et le chemin tracé par Allah subhanahu wa ta'ala, tu auras cette bonne nouvelle que t'annonce le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La meilleure chose qu'on peut annoncer à un être humain, c'est quoi? C'est le paradis, al-jannah. C'est la meilleure récompense qu'on peut annoncer à quelqu'un, de lui dire que tu es un homme ou une femme du paradis, que tu as comme récompense le paradis. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran Karim, فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. C'est la vraie réussite, le fait de gagner le paradis. Et c'est ce qu'a annoncé le prophète sallam à plusieurs personnes, parmi ses compagnons, parmi les hommes et les femmes, compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans un texte rapporté par Tirmidhi, par Ibn Majah, par Ibn Hibban et d'autres, il est de chaîne de transmission authentique. Anas radiallahu anhu dit, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, man sa'ala Allah al-jannata thalathan, celui qui prie Allah ta'ala de lui accorder le paradis trois fois, ce n'est pas difficile de dire, ô Seigneur, accorde-moi le paradis. Allahumma inni as'aluka al-jannah, Allahumma inni as'aluka al-jannah, Allahumma inni as'aluka al-jannah. Qalat al-jannah, le paradis parle à sa manière, elle parle, ou bien il parle du paradis avec Allah Azza wa Jal en disant Allahumma, Allahumma, in 'abdaka fulanan sa'alaka al-jannah, Allahumma adkhilhu al-jannah. Le paradis fait du'a pour toi, pour que tu ailles au paradis. Wa idha sa'ala Allah ta'ala thalathan an yujirahu min an-nar, celui qui prie Allah ta'ala trois fois qu'il le préserve de l'enfer, illa qalat an-nar, Allahumma ajirhu min an-nar. L'enfer fait du'a pour toi que Allah Azza wa Jalla te préserve du feu. Donc le paradis, c'est la meilleure récompense. Avec ce qui vient après avoir gagné le paradis, il y a encore des biens qui sont meilleurs que le paradis, comme le fait de voir Allah subhanahu wa ta'ala yawm al-qiyamah. Wa as'alullaha ta'ala an yaj'alana min alladhina yatamatta'una bin nadhar ila wajhihi al-karim. L'annonce qu'a fait Rasul sallallahu alayhi wa sallam à ses compagnons, les hommes et les femmes. Il y a des centaines et même des milliers de sahaba pour lesquels Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a annoncé le paradis. Peut-être certains de parmi nous croient que le paradis a été annoncé pour les 10 grands sahaba, l'ashara al-mubasharun bil jannah, Abu Bakr, Umar, Uthman, Ali, Abdurrahman ibn Awf, Talha ibn Ubaydillah, Sa'd ibn Abi Waqqas, Sa'id ibn Zayd, Zubayr ibn Al-Awwam, le dixième, quoi? Bilal? Non. Dans les dix, il y a juste un mot qui est en plus. Abu Ubaida, Amir ibn Al-Jarrah. Les dix dans un même hadith, qu'on appelle l'Ashara al-Mubashirin bil Jannah. Mais en vérité, en étudiant la sunna du prophète, les textes, il est clair qu'il y a des centaines et même des milliers de sahaba pour qui le prophète a annoncé le paradis. Je citerai quelques exemples. Bilal, le prophète a entendu sa marche devant lui. Le prophète est entré dans le paradis et tout d'un coup il entend quelqu'un, les sandales de quelqu'un qui marche devant le prophète. Et il a vu que c'était Bilal. Il demanda à Bilal grâce à quoi il a gagné cette récompense. Et Bilal lui dit que chaque fois que je fais les ablutions, je prie deux raka'at. Dans une version, je prie quelques raka'at qu'Allah Azza wa Jal m'a destiné. Et il y a d'autres sahaba, Thabit ibn Qays ibn Shammas, qui avait une voix très très forte. Et quand Allah Azza wa Jal a révélé dans Surat al-Hujurat que celui qui lève sa voix devant le prophète sallam, eh bien risque de voir ses actions vaines et annulées, il est rentré chez lui à la maison, il a commencé à pleurer de peur qu'il soit un homme de l'enfer. Alors quand le professeur s'en a remarqué son absence, il envoie un sahabi chez lui à la maison pour voir pourquoi il s'est absenté. Et quand il a su la raison, eh bien, ou la cause, le professeur lui dit, eh bien, sache que c'est un homme du paradis et pas un homme de l'enfer. Et dans ce qu'on appelle Bay'at al-Hudaybiyya, Bay'at al-Ridwan, Bay'at al-Shajara, le serment d'allégeance qu'ils ont fait sahaba au prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, le prophète alayhi salatu wa sallam dit « La yadkhulu an-nara mimman bay'a tahta ash-shajarati ahad » Ils étaient 1400 sahabis. Et le prophète dit que personne parmi ces 1400 n'ira en enfer. C'est-à-dire que ce sont des gens du paradis. Etc, etc, etc. Donc la liste est très très longue. Du côté des femmes, compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, l'annonciation qu'a fait Rasul sallallahu alayhi wa sallam, je peux la diviser en deux grands titre et en détail en trois parties. Il y a une annonciation faite par le prophète sallallahu alayhi wa sallam sans déterminer la personne, c'est-à-dire en donnant des règles et des principes. Celui qui fait cette pratique aura le paradis. Celui qui évite cette chose mérite le paradis. Celui qui fait un pèlerinage mabrour, correct, aura le paradis, etc., etc. Donc il y a, c'est une manière d'annoncer le paradis. Eh bien, dans ce premier titre, ou bien dans cette première division, cette première partie, là on peut voir deux sortes, ou bien deux cas. Le premier cas, c'est un domaine où les textes concernent et les hommes et les femmes. Tout le monde. Le pèlerinage, c'est pour les hommes et pour les femmes. « وَالْحَجُّ الْمَغْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةِ » La récompense pour un pèlerinage fait d'une manière correcte, eh bien, n'est que le paradis. C'est pour les hommes et pour les femmes. Celui qui prie toujours 12 rak'at, sunna, rawatib par jour, les deux avant ce qu'on appelle le fajr, 4 avant dhuhr, 2 après dhuhr, 2 après le maghrib, 2 après l'isha, celui qui les prie tout le temps, eh bien, aura un palais, une maison au paradis. C'est pour les hommes et pour les femmes. Celui qui prie 40 jours derrière l'imam, il le rattrape à la première takbira, la première takbira, il sera préservé du feu, c'est-à-dire il aura le paradis. C'est pour les hommes et pour les femmes. J'ai toute une liste très très longue. Man bana lillahi baytan, bana Allahu lahu baytan, fil jannah, hadith mutawatir. Celui qui construit une mosquée, il aura au paradis un palais, une maison. C'est pour les hommes, pour les femmes. Man yadman li ma bayna lihyayhi wa ma bayna fakhilayhi adman lahu al-jannah. Celui qui évite de tomber dans al-haram, l'adultère, la fornication, et ce qui tourne autour de ce grand péché, celui qui retient sa langue, il ne commet pas de haram par sa langue ou avec sa langue, comme la médisance, comme la calomnie, comme les insultes, comme le mensonge, etc. Si il répond à ces deux conditions, eh bien le prophète lui garantit le paradis, homme et femme. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Ça c'est spécifique aux hommes. C'est pour les hommes, pour les femmes. Celui dont la dernière parole, la ilaha illallah, ira au paradis. Celui qui fait les quatre choses, it'am al-miskin, ittiba' al-janaza, là c'est pour les hommes, ittiba' al-janaza, iyadat al-marid, al-siyan, le même jour, aura le paradis. Nourrir un pauvre, jeûner, faire une sadaqa, accompagner un cortège funèbre. Mais pour la quatrième, c'est pour les hommes, eh bien, il aura le paradis, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour quand il a posé la question aux sahaba, qui a pratiqué aujourd'hui ces quatre choses, eh bien, le seul qui les avait pratiquées, c'était Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit pour nous montrer les faveurs d'Allah Azza wa Jal, que cela est valable pour tout le monde, pas spécifiquement pour Abu Bakr As-Siddiq. Celui qui pratique ces 14 ira au paradis. Al-Shahada bi-anwa'iha, être martyr pour les hommes et pour les femmes. Al-Shahada al-Mat'oun, celui qui meurt à cause de la peste, une épidémie, il ira au paradis. Al-Mat'oun alladhi mata bi-t'a'oun, al-Ghariq, al-Mayyit taht al-Hadm, al-Radm, al-Mahrouq, celui qui est mort, brûlé, noyé dans un tremblement de terre, la maison qui s'écroule sur la personne, homme ou femme, ira au paradis. Celui qui est mort en défendant ses biens, sa personne, sa femme, ses enfants, ses proches, ira au paradis. Homme et femme, man mata duna damihi fa huwa shahid, man mata duna malihi fa huwa shahid, man mata duna 'irdihi fa huwa shahid, comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ana wa kafilu al-yatim ka hatayn fi al-jannah. Moi et celui qui fait le parrainage d'un orphelin, nous serons ensemble dans le paradis, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour les hommes et pour les femmes. As-sabru ala wafat al-awlad, celui ou celle qui perd trois enfants ou bien deux enfants avant la puberté et fait preuve d'endurance, de sabr, ira au paradis. Sahaba, ils ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a dit que celui ou celle qui perd trois enfants avant la puberté, avant leur puberté, ils sont morts et fait preuve d'endurance. Kunna aw kanu lahu hijaban min an-nar. C'est un voile, c'est une protection contre le feu. Alors sahaba, ils ont dit, ici on perd deux au lieu de trois. Qala wa ithnan, deux. Tu iras au paradis. Et un sahabi, Jabir ibn Abdillah, il y a un de ses élèves qui lui demande, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit, est-ce que tu crois que si jamais on a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam que celui ou celle qui perd un enfant et qui fait preuve d'endurance ira au paradis? Jabir dit, na'am, moi je crois que le prophète l'aurait dit aussi. Il aurait donné le paradis même pour celui qui perd un seul enfant et fait preuve d'endurance. Tout cela nous rappelle ces faveurs et cette grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala par le fait de nous annoncer le paradis pour ces choses-là qu'a dit Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Il y a des faveurs ou la récompense qui est le paradis annoncé que pour les femmes. Je donnerai deux exemples. Le premier, dans le contexte où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité les sortes de martyrs, anwa' shuhada. Il dit, wal mar'atu tamutu bi jam'in fahiya shahida. La femme qui décède suite à un accouchement, la femme qui décède suite à un accouchement, ira au paradis. Pourquoi? Parce qu'elle est martyr, shahida. Qui déclare qu'elle est martyr? C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce il a nabi sallallahu alayhi wa sallam, quelqu'un demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam, man ash-shuhada ou man ahlu al-jannah? Qui sont les gens du paradis? Qal an-nabi fi al-jannah. An-nabi fi al-jannah. Tous les prophètes au paradis. والشهيد في الجنة. Tous les martyrs au paradis. Il dit والوائدة في الجنة. Celle qui est enterrée vivante comme faisaient les gens de Jahiliya. والمولود في الجنة. Ceux qui sont les nouveau-nés ou les enfants morts avant la puberté au paradis. والمولود في الجنة. Donc الشهيدة, cette femme qui décède suite à un accouchement, ira au paradis, et c'est une chose spécifique aux femmes. Le deuxième exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un texte déclaré hasan par certains savants, man matat wa zawjuha anha radin dakhalat al-jannah. La femme qui décède et le mari est content d'elle et satisfait, elle ira au paradis. Bien sûr, là on parle d'un mari mu'min, croyant. طاوي 4 على 5 ولا اللي ديانا الصخت هرداكم اون اونطون نو سامارش با دو سيت مانيير ان كرويون مؤمن يكرمها يحسن اليها كي لوي تيان لا بون كومباني ا سون ايبوز اي بيان ايل اي كونتون ديل اي بيان سيت فام لو بروفيت صلى الله عليه وسلم lui annonce le paradis. Ça, c'est la première catégorie qui est de deux cas. La deuxième catégorie, c'est la catégorie des femmes dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncé le paradis en donnant leur nom, une par une. Moi, je ne veux pas citer le nom de toutes ces sahabiyyah, mais je citerai quelques exemples pour tirer des leçons. À chercher, comme j'ai dit au départ, les qualités que ses compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou les autres femmes autres que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme certaines femmes de grands prophètes comme nous allons voir inshallah ta'ala, elles avaient certaines qualités qui ont fait qu'elles ont mérité le paradis. Il y a Sarah, la femme de qui Ibrahim, le grand prophète Ibrahim alayhi salam. Il y a Khadija, la femme de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y a Maryam bint Imran, la mère d'un des plus grands prophètes de l'humanité, Isa alayhi salatu wa sallam. Il y a une femme d'un des plus grands tyrans de l'humanité, la femme du pharaon, Asiya bint Muzahim. Il y a la fille du plus grand prophète, Fatima bint Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y a les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme Aïcha, As-Siddiqa bint As-Siddiq, Zaynab, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Hafsa, la fille de Omar et l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et toutes les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a aussi d'autres femmes parmi les femmes compagnons autres que les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je citerai comme exemple Umm Sulaym radiyallahu anha, Umm Sulaym bint Milhan, la mère de Anas, la mère de Anas ibn Malik, qui a accompagné le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam pendant 10 ans jusqu'à la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce jeune qui avait 10 ans quand il est rentré chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est resté avec lui en sa compagnie jusqu'à la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Umm Sulay, c'est une famille, subhanallah, c'est une famille qui a passé toute sa vie à donner tout ce qu'elle avait pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Notamment son mari Abu Talha, radiyallahu anhu, qui dit dans la bataille de Uhud, il dit, en mettant son corps sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en disant, Ya Rasulallah, nahri duna nahri, je sacrifie ma vie pour toi, Ya Rasulallah. Et sa femme, Umm Sulaym, radiyallahu anha, nous allons voir quelques exemples de qu'est-ce qu'elle va faire pour Rasul, sallallahu alayhi wa sallam, comment elle a passé ses jours et ses nuits à penser au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, s'il avait bien mangé, s'il avait bien dormi, qu'est-ce qui lui manque sallallahu alayhi wa sallam. Elle a tout donné pour le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Il a même mis son fils Anas au service du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a Umm Hisham al-Ansariya, Umm Hisham bint Haritha bin Nu'man radiyallahu anhum jami'an. Il y a Umm Waraqa radiyallahu anha. Il y a d'autres femmes compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour qui le prophète alayhi salatu wassalam a annoncé le paradis. Quant à Sarah, radiyallahu anha, wa rahimahallah, wa alayhi salatu wassalam, Sarah, l'épouse de Ibrahim, je tire l'exemple de Sahih al-Bukhari et de Sahih Muslim. L'histoire de Ibrahim et de Sarah quand ils sont rentrés en Égypte. Ibrahim qui est venu de l'Irak en traversant Ash-Sham, la Palestine, la Syrie. Ensuite, il s'est installé pour quelque temps en Égypte. وَكَانَتْ سَارَةُ مِنْ أَجْمَلِ النِّسَىٰ comme dit le rapporteur. Elle était une des plus belles femmes de l'époque, radiyallahu anha. Mais aussi une des plus chastes des femmes de toute l'humanité, radiyallahu anha. وَمِنْ أَعَفِّ النِّسَىٰ. Et c'est là la leçon. La chasteté, l'honnêteté, la crainte qu'elle avait, Sarah, radiyallahu anha. Elle est rentrée en Égypte avec Ibrahim. Et ils sont restés quelques jours, quelques temps. Et il est normal qu'ils vont faire des courses. Al-Hafidh ibn Hajar, rahimahullah ta'ala, dans son explication du hadith, dit que Ibrahim a été avec son épouse chez un marchand, un commerçant qui vendait du blé. Et c'est ce commerçant qui a été vendre. C'était un espion qui a été vendre au roi de l'Égypte. Au roi d'Égypte, vendre ce qu'il a vu dans cette ville. Il a été dire qu'il y a dans cette ville une des plus belles femmes de l'époque. Et le roi, comme il était quelqu'un, un mouchrik, un associateur qui n'avait aucune crainte pour Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il a voulu commettre, wal'iyadu billah, l'adultère avec Sarah. Il a envoyé quelqu'un pour appeler Sarah. Et comme Ibrahim, le plus grand prophète de l'époque, et un des plus grands prophètes, alayhi salatu wassalam, dans quelle situation il va se trouver? Il dit à Sarah, si jamais cet ennemi d'Allah te demande qui tu es pour moi, tu lui dis que je suis ton frère. Ne dis pas que je suis ton mari. Pourquoi? Eh bien, Ibrahim de un, il n'a pas menti. Il n'a pas menti. Car ils étaient les seuls musulmans sur terre à l'époque. Et comme vous savez, tout musulman est frère du musulman. Donc il dit vrai, alayhi salatu wassalam. S'il avait dit que Ibrahim était son mari, eh bien le roi l'aurait peut-être tué pour épouser Sarah. Alors il lui dit, tu dis à ce roi tyran que tu es ma sœur, que je suis ton frère. Et Ibrahim le dit, il lui dit, sache qu'il n'y a pas de musulmans sur terre, excepté moi et toi. Alors l'autre, il était encore très très jeune à l'époque. L'autre, le neveu de Ibrahim alayhi salatu wassalam, qui était musulman, mais était très très jeune. Sarah, en entrant chez ce roi dans ce palais, alors, imaginez cette situation, Ibrahim, il est dans sa maison tout seul, loin de son épouse, qui est dans le palais d'un roi tyran qui ne craint pas Allah Azza wa Jal. Qu'est-ce qu'elle fait, Sarah, dans cette situation? Elle dit à ce roi, est-ce que tu me permets quelques minutes? Elle va faire les ablutions. Tawaddaat, wa qamat tusalli. Elle fait du'a. Elle fait du'a, elle prie Allah subhanahu wa ta'ala. Elle fait les ablutions, ça veut dire que les ablutions existaient chez les communautés avant Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais la manière, elle n'est pas forcément la même que la nôtre. Elle a fait les ablutions, elle a commencé à faire du'a, à faire du'a. Parmi les du'a qu'elle fait, comme rapporte le Bukhari et le Muslim, il y a plusieurs versions authentiques. Allahumma innaka ta'lamu anni amantu bika wa bi rasulika fala tusallit alayya hadha al-kafir. Elle dit, Ya Rab, tu sais que j'ai cru en toi et en ton messager, c'est-à-dire Ibrahim. Alors, empêche ce tyran, cet associateur de me toucher. Elle fait du'a. Ibrahim, au même moment, qu'est-ce qu'il fait? Il est chez lui en train de prier. Yusalli, lillahi subhanahu wa ta'ala. Il fait du'a, il prie Allah Azza wa Jal de préserver son épouse de cet homme. Et tout d'un coup, subhanallah, cet homme, ce tyran vient pour toucher Sarah. Tout d'un coup, il est tombé, évanoui, par terre, comme quelqu'un de possédé, en train de trembler, comme s'il était possédé. Il était en train d'étouffer, il ne savait même pas respirer. À peine il a su dire quelques mots, en demandant, priant Sarah, de faire du'a, Allah Azza wa Jal, de lui redonner sa santé. Et Sarah, elle a fait du'a pour lui, et s'est mis debout. Mais malheureusement, il n'a rien compris. Il a essayé une deuxième fois. Il est tombé sur le champ, par terre, comme un possédé. Il demanda du'a. Elle fait du'a pour lui, subhanallah. Regardez l'honnêteté de cette femme. L'honnêteté de cette femme qui, malgré ce qu'elle vient de voir, et le risque qu'il y a, subhanallah, elle fait du'a. Elle fait du'a pour qu'Allah Azza wa Jal sauve cet homme. Pourquoi? De un, vu le grand cœur qu'elle avait, mais de deux, il y a aussi, par crainte que si jamais il meurt, ils vont la tuer, lui dire que c'est toi qui as tué notre roi. Elle fait du'a pour lui trois fois. Alors là, il lui a promis de la laisser partir. Et bien la troisième fois, il dit à son gardien, faites sortir cette femme de chez moi, vous n'avez pas amené une femme, mais c'est un shaitan. Pourquoi? Parce que lui, chaque fois, il tombait comme un possédé. Et bien, quelqu'un qui est possédé par un shaitan, il tombe de cette manière. Alors, il n'a pas su dire autre chose, vu que c'était quelqu'un qui ne connaissait pas Allah subhanahu wa ta'ala. Et il lui a donné Hajar. Hajar, qui va devenir la mère de Ismaïl. Ismaïl, c'est un des ancêtres du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, regardez cette femme, Sarah, dans une situation pareille. face à un grand tyran de l'époque, entre quatre coins, les portes fermées, et une femme faible qui ne sait rien faire, mais subhanallah, sa chasteté était pour elle mieux que de rester vivante et perdre sa chasteté, son honneur. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit dans un texte authentique, j'ai vu Ibrahim et Sarah et autour d'eux, dans le paradis, autour d'eux, plein d'enfants. Et j'ai demandé à Jibril, qui sont ces enfants? Jibril lui dit que ces enfants, ce sont les enfants qui sont morts avant la puberté, et c'est Ibrahim et Sarah qui font le parrainage de ces enfants jusqu'à Yawm al-Qiyamah, ils vont les rendre à leurs parents. Subhanallah. Sarah, cette femme du paradis, regardez comment elle était. Je cite le deuxième exemple, je donnerai le deuxième exemple, l'exemple de Khadija radiyallahu anha. Khadija, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a vécu avec Rasoul sallallahu alayhi wa sallam pendant un quart du siècle, 25 ans, et c'est la mère de tous les enfants du prophète sallallahu alayhi wa sallam, excepté Ibrahim. Khadija radiyallahu anha, qui était à la fois une femme modèle, une épouse modèle, une mère modèle, quand je dis modèle, c'est-à-dire dans sa foi, dans son comportement, radiyallahu anha. Khadija radiyallahu anha, elle a préparé pour Rasoul sallallahu alayhi wa sallam un climat de tranquillité et de paix et d'entraide et de bien entente, de bonne entente avec Rasoul sallallahu alayhi wa sallam qui est son mari, au point où le prophète ne l'a jamais oublié jusqu'à sa mort, radiyallahu anha. Et chaque fois que le prophète rentrait à la maison, qu'est-ce qu'il trouvait auprès de Khadija? La paix, le calme, le soutien, la belle parole, la sagesse. Elle est revenue, ou bien il est revenu, sallallahu alayhi wa sallam, de la grotte de Hira, comme rapporte Al-Bukhari dans le troisième hadith dans Sahih Bukhari. Rasoul avait peur pour lui à cause de la rencontre qu'il vient de faire avec un être étrange dans cette grotte, un être qu'il n'a jamais vu, qui était Jibril, qui lui dit Iqra, Iqra, Iqra. Et Khadija lui dit Wallahi la yukhzik Allahu abada. Innaka la tahmilu al-kalb wa tuqri ou wa taqri al-dayf wa tu'inu ala nawa'im al-haq. Elle lui rappelle les qualités qu'avait le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, qu'a le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Les ulama, ils ont dit que al-jaza' min jins al-amal. Pour le fait que Khadija radiyallahu anha, elle a donné à son mari Rasoul sallallahu alayhi wa sallam cette ambiance de paix et de calme et de sagesse et de belles paroles, Allah Azza wa Jalla lui a donné comme récompense dans le paradis, comme dit Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, Atani Jibril wa basharani. Jibril dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'annoncer la bonne nouvelle à Khadija, anna Khadija anna li Khadija baytan min fil jannah min qasab la nasab fihi wa la wasab. Dans une version, la sahaba fihi wa la nasab. Elle a un palais au nord dans le paradis dans lequel il n'y a pas de sahab. Vous savez c'est quoi sahab? Rentrez dans la plupart des foyers musulmans, vous allez comprendre. C'est quoi sahab? À peine tu rentres, tu ouvres la porte. Pas la porte de l'appartement, la porte de la maison, de l'extérieur. Tu entends les cris, le rouat, les bagarres. On entend, t'as pas besoin, si tu veux appeler quelqu'un, t'as pas besoin de téléphone. Il suffit d'appeler. On entend de 10 km des cris. Eh bien, dans la plupart, même les enfants, ils ont grandi dans cette ambiance, malheureusement. Et vous savez comment les enfants, ils arrivent de l'école pour sonner à la maison? Pas de salam alaykoum. Ouvre! Deux minutes, deux secondes de retard, ils cassent la porte. Ils ont grandi dans cette ambiance, malheureusement, et dans cette mauvaise éducation. On voit les nerfs chez les jeunes, chez les enfants. Ils sont tous nerveux, subhanallah. On ne sait même pas écouter. Quand quelqu'un parle, on doit répondre directement, réagir directement, lui crier dessus. S'il continue, on le frappe. Même chez entre les frères et sœurs à la maison. On ne sait pas écouter. On ne sait pas. Hier, la conférence d'hier en arabe, c'était sur le hiwarat al-usariya. Le dialogue dans la famille. Et c'est quelque chose de très important, et même de nécessaire, et fondamental dans les couples et dans les familles. De donner l'occasion à l'autre de parler, de l'écouter, de répondre doucement et avec sagesse, de savoir, des fois même avant de continuer, avant de terminer ta phrase, l'autre te dit « Ah oui, je sais ce que tu veux dire. » Subhanallah. Et j'ai même pas terminé ma phrase. Et des fois même avant de prononcer la première lettre, de lui dire, mais tu dis « Non, ça je sais, moi je veux pas. » Subhanallah. Mais laisse-moi t'expliquer qu'est-ce qu'il y a. Elle dit « Je sais ce que tu vas dire. Bon, dis-moi ce que je veux dire. » Non, c'est pas comme ça. C'est pas ce que je voulais dire. T'es pas un prophète, tu reçois pas la révélation. Laisse-moi parler. Écoute, si je me trompe, tu corriges. Eh bien, cette ambiance dans les couples et dans les familles, c'est quelque chose de très très cher. Et c'est une éducation de trouver le cadre à la maison. T'as envie de rentrer chez toi. L'enfant, la fille, le garçon, la femme, le mari, chacun, il a envie de rentrer chez lui. C'est là où il trouve un refuge. Après un travail de 8 ou 10 heures, après le stress, il trouve le calme chez lui à la maison. Eh bien, les ulama disent, regardez cette, subhanallah, cette récompense. Allah s'en dit, il dit que Khadija, Allah Ta'ala lui a donné, dans le paradis, un palais en or, où il n'y a pas de cri, il n'y a pas de rouat, il n'y a pas de sda', ou à la nasab, il n'y a pas de fatigue. Pourquoi spécialement ces deux choses? Pas de cri, pas de fatigue, pas de souffrance, nasab. Parce qu'elle a souffert dans la vie pour soutenir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'elle a souffert dans sa vie à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Khadija, elle est décédée avant le hijra. Elle est décédée avant le hijra. Au moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam était insulté, frappé, et même ils ont essayé de le tuer sallallahu alayhi wa sallam à la Mecque, où les musulmans étaient encore très faibles. Donc il a vécu cette période de faiblesse, de souffrance, à côté du prophète sallam. La souffrance d'un côté, mais dans la maison c'était un paradis qu'il trouvait Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Allah azza wa jalla lui a donné comme récompense un palais au paradis, entre autres, en nord du paradis, où il n'y a pas cette souffrance qu'il a passée durant sa vie à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Aïcha radiallahu anha dit, en rappelant ces moments que le prophète sallam a vécu avec Khadija, parce qu'il se rappelle tout le temps de Khadija, sallam. Il se rappelle tout le temps Khadija. Même après sa mort, parce que Aïcha radiallahu anha, elle n'a pas connu Khadija. Elle avait Aïcha peut-être 3-4 ans quand Khadija est décédée. Donc elle était très très jeune. C'était encore un enfant, donc elle n'a pas connu Khadija radiallahu anha, mais elle a entendu le prophète sallam parler de Khadija quand il s'est marié, Aïcha radiallahu anha. Chaque fois le prophète parle de Khadija, 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 Khadija. Un jour elle a eu un peu de jalousie. Elle dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu me ramènes chaque fois Khadija, Khadija, comme s'il n'y a pas de femme comme Khadija sur terre. Et tu parles d'une femme aux lèvres rouges. C'est pas du rouge à lèvres. Parce qu'il avait perdu ses dents. Elle était très âgée, Khadija radiallahu anha. Donc, j'ai en train de critiquer Khadija. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui va défendre Khadija radiallahu anha. Il dit, Khadija, c'est avec elle que j'ai eu des enfants. Khadija, c'est elle qui m'a soutenu dans les pires des moments. Khadija, c'est elle qui m'a donné son argent. Khadija, ruziqtu hubbaha. Allah Ta'ala m'a mis dans mon cœur, hubbaha, je l'aime. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Subhanallah, qui défend Khadija? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais les paroles du prophète, il dit, wasatni bimaliha. Wasatni, elle m'a soutenu. Toute sa vie, il n'a pas oublié Khadija en disant « Elle m'a soutenu ». Ça veut dire, c'est un appel pour les hommes et pour les femmes. Même si le sujet concerne les femmes, mais c'est un appel à tout le monde. De soutenir l'un l'autre dans les couples, dans les familles. C'est ce qui fait que l'un n'oublie pas l'autre, subhanallah, même après sa mort. Comme a dit Ummu Darda, qui a voulu rester après la mort de son mari, sans se remarier. On lui a demandé pourquoi. Elle dit « Parce que mon mari m'a rapporté qu'il a entendu le professeur dire « Al-mar'atu li-akhiri azwajiha fil jannah ». La femme sera avec le dernier mari qu'elle a eu. Elle sera au paradis avec le dernier mari qu'elle a eu avant sa mort. Donc elle veut rester, même dans le paradis. Khadija radiallahu anha, c'était la seule femme que Aïcha ne voulait pas entendre son nom. Pourquoi? Vu que le prophète, chaque fois, il parlait d'elle. Elle dit, ma hasadtu imra'atan ma hasadtu Khadija. J'ai jamais envié quelqu'un comme je l'ai fait pour Khadija. Pourquoi? Tellement le prophète s'en parlait d'elle. Qu'est-ce qu'elle a préparé pour le sorcelin comme ambiance dans ce couple et dans cette famille, radiyallahu anha. Et Khadija, c'est elle qui va laisser des enfants après elle, avec Rasulullah, des orphelins. Comme qui? Fatima, radiyallahu anha, la fille du prophète, Fatima. Et là, je passe de Khadija à Fatima. Fatima, radiyallahu anha, est un exemple, comme Khadija est un exemple de cette personne modèle qui a soutenu son mari, son conjoint, dans le couple, dans la famille. Une femme modèle qui a vécu dans cette paix, dans cette tranquillité, dans la vie familiale. Eh bien, Fatima radiyallahu anha, c'est un exemple de sabre. C'est un exemple de sabre, d'endurance. Et n'oubliez pas que Fatima est décédée sans atteindre la trentaine. Très très jeune, radiyallahu anha. Elle avait presque 18 ans quand elle s'est mariée après la bataille de Badr. Après la bataille de Badr de la deuxième année de l'Hijra. Elle s'est mariée avec Ali. Elle avait presque 18 ans, Fatima. Et elle est décédée après le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, 6 mois après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La première personne de sa famille, de la famille du prophète qui est décédée après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fatima radiallahu anha, dans son histoire, nous allons voir qu'elle a subi beaucoup de, entre parenthèses, de chocs. Mais elle a résisté. Fatima, c'est elle qui a vu son père. Suivez avec moi ces événements de souffrance. Et qu'est-ce qu'elle va faire comme preuve d'endurance, radiyallahu anha. Fatima, elle a vu son père, elle était jariya, une jeune fille, en train de prier devant le Kaaba. D'abord, elle était chez elle à la maison. Le prophète, son père, en train de prier al Kaaba, bien devant le Kaaba. Les grosses têtes de Quraysh, le mushrikoun, assis près de la Kaaba, et ils ont parlé entre eux, ils ont dit, regardez, Mohammed, il est venu faire prier la prière devant nous, sallallahu alayhi wa sallam. Eh bien, y a-t-il pas quelqu'un d'entre nous qui va se moquer de lui un peu? Ils veulent blaguer, ils se moquer du prophète sallallahu alayhi wa sallam, rire sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont envoyé qui? Un certain Uqba ibn Abi Mu'ayt. Uqba ibn Abi Mu'ayt, qu'est-ce qu'il fait? Il prend les restants d'un chameau immolé, des trèfles, etc., tout ce qu'il y a dans le ventre, des saletés, il les prend dans sa main, il va, il attend le moment où le prophète s'est prosterné, alayhi salatu wa salam, il les met sur la nuque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les autres, tout le monde a commencé à rire sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quelqu'un a envoyé chez Fatima, radiyallahu anha, pour l'appeler, pour lui dire, regarde, qu'est-ce qu'ils ont fait de ton père? Et Fatima, elle est arrivée, quand elle a vu cette scène, elle a pleuré, radiyallahu anha. Une jeune fille qui voit son père en train de prier tout seul, et qu'est-ce qu'ils lui font? Alors qu'elle a commencé à nettoyer la tête et le cou, la nuque, le dos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de son père. Une autre fois, radiyallahu anha, dans la bataille de Uhud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam blessé à la tête. Il a reçu plusieurs blessures sallallahu alayhi wa sallam dans la bataille de Uhud. Sur ses épaules, sur la tête, sur ses joues, sur ses genoux, sallallahu alayhi wa sallam. Et Fatima, radiyallahu anha, quand elle a vu son père, donc regardez combien de fois elle va voir son père, Khadija, sa mère, est décédée. C'est elle maintenant qui s'occupe de son père. Subhanallah, elle voit son père dans cette situation. Elle prend de l'eau. Elle et Ali, radiyallahu anha, ils vont mettre de l'eau pour essayer de nettoyer la blessure et de faire arrêter cette hémorragie, bien cette blessure. Mais le sang ne faisait que sortir encore de plus en plus. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend de la paille, elle le brûle, elle prend les cendres et elle les dépose, elle les met sur la blessure et le sang, alhamdoulilah, s'est arrêté. Elle voit son père dans cette situation, blessé un peu partout. À la fin de la bataille, le prophète, il était rempli de blessures. Sallallahu alayhi wa sallam. Et Fatima est là, dans la bataille de Uhud. Elle était là dans la bataille de Uhud en train de regarder ce qui se passait. Et à un certain moment, ils ont annoncé la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les mouchrikoun, ils ont dit, Mata Muhammad, qutila Muhammad, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est tué. Même sahaba n'ont pas cru, certains sahaba. Et d'autres, ils ont cru, ils ont dit, ils ont cherché le prophète, ils ne l'ont pas vu. Ils ne l'ont pas vu au milieu de ces milliers de mouchrikis. environ 3000, ils n'ont pas vu le Rasulallah, ils ont cru qu'il était tué. Et Fatima, elle voit, elle entend, et elle assiste à toutes ces scènes qui font certainement mal, notamment à une jeune fille de l'âge de Fatima, radiallahu anha. Et vers la fin du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, Fatima, radiallahu anha, comme rapporte les textes authentiques, et dans une version, c'était le dernier jour de la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui est décédé un lundi. Et à la prière de Subh, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est sorti pour regarder un peu le Sahaba radiallahu anhu. Comme vous avez plusieurs fois entendu, il retire le voile qui est sur sa porte et regarde le Sahaba en train de prier derrière Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu. Alors le prophète fait un sourire qui montre qu'il était très très fier de voir le Sahaba tous unis derrière Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu dans la prière. Et Abu Bakr a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam juste à côté. Et qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il a voulu laisser la place de l'imam au prophète sallallahu alayhi wa sallam et retourner en arrière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui fait signe pour lui dire « Reste à ta place. » Fa'ashara ilayhi anumkuth. Reste à ta place. Continue à faire imam. Le prophète n'est pas sorti pour faire la prière avec sahaba, mais c'était juste pour jeter un dernier regard sur sahaba radiallahu anhu. Et vers Ad-Duha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était très malade parce que à ce moment-là de Fajr, il a commencé à se sentir bien. Sahaba ils ont cru que alhamdoulillah il est guéri sallallahu alayhi wa sallam. Mais en vérité, c'était un dernier regard qu'Allah azza wa jalla lui a permis de faire pour voir, pour regarder le Sahaba, c'était comme un regard de Dieu à Sahaba radhiyallahu anhu. Et vers Duha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam appelle Fatima radhiyallahu anha. Il lui dit dans ses oreilles, dans son oreille, il lui dit quelque chose que personne ne savait à l'époque, jusqu'après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand il lui annonce, il lui dit la première information, Fatima radiallahu anha a commencé à pleurer. Et il lui annonce la deuxième, elle a commencé à rire radiallahu anha. Après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle a dit à Aïcha, qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui avait dit? La première information qu'il lui avait dit sallallahu alayhi wa sallam, c'était l'annonciation de sa mort, sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit que je vais mourir. Il dit ça à sa fille, la plus aimée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Fatima. Et qui aimait Allah, sallallahu alayhi wa sallam, plus que tout le monde, radiyallahu anhu. Et maintenant, il lui annonce, il y a quelques heures, il était debout, elle a cru que son père, alhamdoulilah, est guéri, et maintenant, il lui dit que je vais mourir. Elle pleure, radiyallahu anhu. C'est normal. Et subhanallah, tellement, elle aime son père. Le prophète lui dit que tu es la personne qui me rejoindra la première. C'est-à-dire, il lui annonce sa mort, juste après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va rire, radiallahu anha. Tellement elle est contente, même si c'est la mort, elle est contente de suivre son père et de rejoindre son père Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans le paradis. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam annonce le paradis à Fatima radiallahu anha. Il dit Sayyidatu Nisa'i al-Alami, il cita les quatre: Khadija bint Khuwaylid, wa Maryam bint Imran, wa Fatima bint Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, wa Asiya bint Muzahim imra'atu Fir'aun. Il lui annonce le paradis, et même le prophète n'annonce pas seulement le paradis pour Fatima, il lui annonce qu'elle est une des quatre meilleures femmes du paradis. Fatima radiallahu anha, Khadija sa mère, et Asiya et Maryam. Ce sont les quatre meilleures femmes du paradis. Et Fatima est l'une de ces quatre femmes, comme a dit le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Un autre exemple, Asiya bint Muzahim, la femme de Pharaon. Là c'est l'exemple de qui? L'exemple d'une femme. Et là il y a une grande leçon à tirer de cette femme dont le prophète nous a annoncé qu'il l'a vue au paradis. Asiya, c'est une femme qui nous donne l'exemple d'une personne qui cherche la foi indépendamment de son mari. C'est-à-dire, ce n'est pas ce qu'on appelle imma'a. Si le mari pratique, je pratique. S'il ne pratique pas, je ne pratique pas. Si ma femme pratique, je pratiquerai. Si elle ne pratique pas, eh bien, ma femme ne veut pas pratiquer. Ce n'est pas une imma'a. Au contraire, elle a sa personnalité. Et c'est ce que doit avoir chaque musulman et chaque musulmane, avoir sa propre personnalité dans le bien, dans le khayr, dans la foi. Car chacun d'entre nous sera jugé seul, yawm al-qiyama, devant Allah Azza wa Jal, subhanahu wa ta'ala. Donc tu n'as pas à suivre aveuglément l'autre. Tu dois chercher ce qui plaît à Allah Azza wa Jal. Ne dis pas parce que ma famille font cela, eh bien je le ferai. Parce que mon père a fait, eh bien je le ferai. Parce que ma femme ne veut pas, eh bien je ne le ferai pas. Parce que mon mari veut, eh bien je le ferai. Ce n'est pas comme ça que doit penser un musulman. Le musulman et la musulmane doivent voir ce que veut Allah Azza wa Jal. Ce qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce qu'il va faire. Asya bint Muzahim. La femme de qui? C'est la femme. Ce n'est pas la femme de n'importe qui. D'un simple citoyen d'Égypte. D'un simple homme. C'est quelqu'un qui est au sommet de la pyramide. C'est le chef, c'est le roi, c'est Pharaon, un des plus grands tyrans de toute l'histoire de l'humanité, Pharaon, qui a dit « Ana rabbukum al-a'la »« Je suis votre Dieu », il dit à son peuple. Ils l'ont adoré. « Je suis votre Dieu ».« Ma alimtu lakum min ilahin ghayri » Il n'y a pas notre Dieu que vous devez adorer, sauf moi. C'est ce que disait Pharaon. Regardez au point, à quel point il est arrivé dans son al-kibr, l'orgueil. Et sa femme, ainsi, en général, une femme qui est l'épouse d'un roi, qui a toute l'Égypte dans ses mains, l'argent, l'or, et jusqu'à aujourd'hui, en train encore de découvrir, chaque jour on découvre, on a trouvé une momie avec à côté 20 kilos d'or, 200 kilos d'or, une tonne d'or, des diamants, des perles précieuses. Jusqu'à nos jours, on trouve encore, on découvre. Ça veut dire qu'elle avait entre ses mains des richesses et des fortunes colossales. Elle a tout. Elle a toutes sortes de voitures, dernier modèle. Les villas que vous ne pouvez même pas imaginer sur le Nil, les palais, la liberté totale de diriger tout un état. Subhanallah, elle a tout ça entre ses mains. Et qu'est-ce qu'elle a préféré quand elle a entendu l'appel d'Allah Azza wa Jal à travers Moussa alayhi salam? Elle a dit Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Moussa Rasulullah. Elle a cru, elle a attesté. Le prix c'est quoi? Eh bien Pharaon, comme dit Abu Huraira radiyallahu anha, il dit que Pharaon, il a pris son épouse Asiya, quand elle a refusé de renoncer à sa foi et de renier sa foi, elle a choisi Allah Ta'ala. Regardez la personnalité, qu'est-ce que ça fait? Quand la personnalité de l'être humain, de l'homme ou de la femme, est fondée sur l'iman, sur la conviction, il n'y a rien qui peut la changer. Il n'y a rien qui peut la changer. Tout d'abord, il essaye de la convaincre, ça n'a pas marché. Il essaye de l'acheter, ça n'a pas marché. Pharaon a essayé de... Il l'a menacé. Ça n'a pas marché. Après, c'était la torture. Il prenait son épouse, Asiya, qui vient d'une famille connue en Égypte. Chaque jour, en plein midi, dans le désert, avec 4 piquets. Arba'at awtab. 2 pour les mains, 2 pour les pieds. En plein soleil, Fir'aun bin awtab. C'est Abu Huraira qui dit cela. Eh bien, en plein soleil, en plein midi, dans le désert, il a laissé toute la journée et il l'a torturée pour renier sa foi. Et elle, qu'est-ce qu'elle disait? Elle disait « Rabbi ibni li indaka baytan fil jannah wa najjini min fir'aun wa amalih wa najjini min al-qawmi al-zalimin » Subhanallah, yaqul Abu Huraira, « Fir'aun yu'adhibuha wal malaikatu tudhalliluha » Allah, il a envoyé le malaïka, les anges, pour mettre leurs ailes sur la femme de Pharaon, ainsi elle a protégé contre les rayons solaires. Et elle, à quoi elle pensait? Elle pensait au paradis. La torture, mais elle voyait le paradis. Elle disait, « Oh Seigneur, construis pour moi, auprès de toi, une maison. » Elle dit d'abord, « Auprès de toi, une maison. » Elle n'a pas dit « une maison auprès de toi. » « Qaddamatil jara qabla ad-dar » Elle a choisi le voisin avant de choisir la demeure. La compagnie avant la demeure. Comme on dit, Ar-Rafiqu qabla at-tariq wal-jar qabla ad-dar. Tu veux voyager avant de choisir ta destinée, choisis choisis ton compagnon de route. Tu veux habiter un appartement, choisis ton voisin avant de choisir l'appartement. Est-ce qu'il est grand ou pas? D'abord le voisin. Elle a choisi d'abord le voisin. C'est qui son voisin? Allah Rabbul Alamin subhanahu wa ta'ala. Ça c'est Asya bint Muzahim. L'exemple, un autre exemple. L'exemple de Umm Sulaym, la mère de Anas. Umm Sulaym. Et là c'est une longue histoire. Umm Sulaym radiallahu anha. Elle s'appelle Umm Sulaym bint Milham al-Ansariya. Sa mère, plutôt, sa sœur, c'est une famille comme la plupart des familles que je citerai, dont je parlais ou je parlerai, il y a le résultat, le fruit de l'éducation. Dans toute cette famille, vous allez voir, subhanallah, ou la plupart d'entre elles, vous allez voir que Umm Sulaym, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui a annoncé le paradis. Et vous allez voir quelle famille. Les autres femmes pour qui le prophète a annoncé le paradis, vous allez voir dans quelle famille ils ont grandi, subhanallah. Ce n'est pas le cas de toutes les femmes. Il y a des femmes où c'est tout à fait le contraire. Toute la famille, elle est en dehors de l'islam, mais la femme a choisi l'islam, subhanallah. Umm Sulaym, elle est surnommée Al-Rumaysa', Al-Ru'ayn, Al-Rumaysa'. Dans une autre version, authentique aussi, Ar-Rumaysa, Ar-Rumaysa, Bra. Al-Rumaysa, Ar-Rumaysa, Umm Sulaym, Bintu Milham. Sa sœur, elle s'appelle Umm Haram, Bintu Milham. Umm Haram, c'est la femme, comme dit Al-Bukhari, rapporte le hadith Al-Bukhari, chez qui le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de temps en temps, il allait pour aller se reposer ou aller manger. C'est la tante de Anas, la sœur de Umm Sulaym, Umm Haram. C'est elle qui a dit un jour au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand le prophète a fait un rêve, durant la journée, c'était en plein midi. Et de là, les ulama, ils ont tiré comme rapporte le Bukhari, rahimahullah, Ru'yan Nahar, un rêve fait pendant la journée, ça veut dire qu'il peut se réaliser, même s'il fait, il est fait pendant la journée. Pas comme on croit des fois que le rêve qui est fait avant le fajr, eh bien, c'est un vrai songe, mais s'il est fait pendant la journée, c'est un faux, c'est pas vrai, c'est pas toujours vrai. C'est mieux avant le fajr, na'am, mais même en pleine journée, tu peux rêver quelque chose qui se réalisera. Comme a dit Al-Bukhari, Ru'yan Nahar, il rapporte l'histoire de Umm Haram. Alors, qu'est-ce qu'elle dit? Le prophète, tout d'un coup, il se réveille. Il dit à Umm Haram, رجال من أمتي يركبون ثبج هذا البحر كالملوك على الأسرة. Il viendra une époque, il parle maintenant de l'avenir révélé par Allah Azza wa Jal. Il viendra une époque où des gens de ma communauté ils vont ruzat fi sabilillah faire une attaque dans la mer comme des rois sur leur trône. Et Umm Haram dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parle d'une expédition militaire, Rouzat, Mujahidul fi sabilillah. Umm Haram, c'est une femme. Elle lui dit, ya Rasulallah, salillah an akuna minhum. Prie Allah Ta'ala que je sois parmi eux. Subhanallah, elle demande qu'elle soit avec le Rouzat, le Mujahidul fi sabilillah, dans la mer. Rasulallah lui dit, tu seras parmi eux. Il fait un deuxième rêve, juste quelques minutes après, il se réveille, sallallahu alayhi wa sallam. Et il parle d'un autre groupe. Elle lui dit, ya Rasulallah, prie Allah Ta'ala que je sois parmi eux. Il lui dit, non, anti min al-awwalin, tu fais partie du premier groupe. Et Umm Haram, subhanallah, c'est une femme du paradis. Umm Haram, la sœur de Umm Sulaym. Umm Haram bint Milhan, à l'époque de Muawiyah, elle va attaquer en mer avec Muawiyah, qui était le chef de l'armée de l'époque, dans la mer, à l'époque de Umar ibn Khattab, ils vont attaquer en mer, elle sera avec Muawiyah radiallahu anhum, jami'an, et quand elle va quitter le navire, sur sa monture, c'était une mule, elle va tomber, et c'est la mule qui va l'écraser, elle va mourir shahida, martyr, comme a prié le Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est la famille de Umm Sulaym. Umm Sulaym a perdu son mari, tué. Quelques temps après, elle va se remarier. Le père de Anas est tué. Avant qu'il soit musulman, il est mort, il est tué par quelqu'un, par un de ses ennemis. Elle est restée veuve, elle va épouser un autre homme qui s'appelle Abu Talha. Abu Talha, Al-Ansari. C'est l'homme qui a, comme j'ai dit au début, c'est lui qui va se mettre contre Rasulullah pour lui dire « Nahri duna nahrik ». C'est parce qu'il y avait les mouchriquins dans la bataille de Uhud qui tiraient des centaines, des milliers de flèches contre Rasulullah pour le tuer, sur Rasulullah, pour le tuer. Et Rasulullah, il s'est trouvé au milieu de l'armée de mouchriquine, découvert. As-Sahaba, ils étaient dans tous les côtés, en train de défendre. Alors Rasulullah, il dit, As-Sahaba, y a-t-il quelqu'un pour m'aider? Je lui donne le paradis, je lui garantis le paradis. Il y a 9 Médinois qui se sont venus, l'un après l'autre, pour défendre Rasulullah, et sont tous tombés martyrs, radiallahu anhu, l'un après l'autre. Et il est venu à Abu Dujana, il a mis sa poitrine contre Rasulullah, il l'a collé au Prophète, et il recevait des flèches dans son dos. Il disait, « Zahri dounaka ya Rasulallah ». Abu Talha, il s'est mis contre Rasulullah, et les flèches qui tombaient sur Abu Talha, il avait des dizaines et dizaines de blessures, radiallahu anhu. C'est le mari de Umm Sulaym. Mais subhanallah, avant d'épouser Umm Sulaym, Abu Talha, c'était un homme connu. Avant l'islam, il était connu à Médine. C'était un homme sérieux, un homme honnête, même avant l'islam. Alors il est venu chez Umm Sulaym. Il lui dit, je veux demander ta main au mariage. Est-ce que tu acceptes? Umm Sulaym, elle lui dit, tu n'es pas quelqu'un que je peux critiquer. Tu as un homme de bien, tu as beaucoup de qualités. Mais sache que tu es associateur, je ne veux pas t'épouser. Ante mushrik, elle lui dit, je ne veux pas t'épouser, c'est haram, c'est interdit. Moi je suis musulman. Alors qu'est-ce qu'il fait Abu Talha? Bien sûr, par conviction, il le fait. Il va chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il dit, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad rasulullah. Il devient musulman, pas pour la femme. Pas pour la femme. Il ne se convertit pas pour épouser. Et s'est converti par conviction, Abu Talha radiallahu anhu. Et c'est pour ça que par après, regardez ce qu'il va faire pour défendre le rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Eh bien, Abu Talha est revenu chez Umm Sulaym. Il lui dit, je suis musulman. Quel est ta dot que tu demandes? Qu'est-ce que tu exiges comme dot? Al-Mahr, Sadaq. Umm Sulaym, elle lui dit, la dot, la meilleure dot que je veux, c'est ta conversion à l'islam. Al-Islam. Et un tabi'i, un compagnon de Anas, il s'appelle Thabit ibn Aslam, c'est le compagnon de Anas, dit, je n'ai jamais vu ni lu sur l'histoire de mes prédécesseurs quelqu'un qui a donné une dot plus chère que celle de Abu Talha. Qu'est-ce qu'il a donné comme dot? Al-Islam. C'est le mari de Umm Sulaym radiyallahu anha. Et elle a eu une autre histoire avec Rasulullah, beaucoup d'histoires avec Rasulullah, Umm Sulaym. Chaque fois, qu'est-ce qu'elle faisait Umm Sulaym? C'est d'envoyer des cadeaux pour le prophète sallam. Pourquoi? Parce qu'elle avait beaucoup de rahma dans son cœur, radiallahu anha. Une fois, elle a entendu juste la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle a remarqué que le prophète était affaibli, tellement il n'a pas mangé depuis quelques jours, sallallahu alayhi wa sallam. Elle a eu pitié du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle prépare un peu de nourriture et l'envoie au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une fois, elle a envoyé des fois le pain, des fois les dattes, des fois le rotab, des fois de la soupe. Chaque fois, elle envoie quelque chose, des fois même du beurre. Chaque fois, elle envoie au prophète sallam. Et Allah Azza wa Jal, il lui a montré le baraka, la bénédiction dans ce qu'elle fait. Elle envoie une fois Ukka. Ukka, c'est un récipient, ina min jild. Il était fait de cuir à l'époque, dans lequel il mettait du beurre. Yoda'u fihi sam. Elle avait une chèvre, elle a pris du lait, et elle a fait du beurre. Elle a demandé à sa servante, talabat min jariyatiha, an tadhhab bi hadhihi al-ukka ila rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Lui dit, prends ce beurre, donne-le au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Umm Sulaym, elle est sortie pour quelque chose, ensuite elle est revenue à la maison. Quand elle est revenue, elle a vu que le récipient, il est encore à la maison avec plein de beurre. Elle dit à cette jeune fille, lui dit, pourquoi t'as pas fait ce que je t'ai ordonné de faire? D'aller prendre ce beurre et le donner au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle lui dit, Wallahi qad fa'alt, je jure par Allah que je l'ai déjà donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et si tu ne me crois pas, va demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle va chez Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Elle lui demanda, Rasulullah lui dit, qad fa'alt, Elle m'a donné le beurre. Elle lui dit, ah, Rasulallah, mais chez moi, quand je suis rentré, j'ai vu le récipient qui déborde de beurre. Eh bien, Rasulallah lui dit, quand tu m'as envoyé ce beurre, j'ai fait dua pour toi. Il lui a fait dua, Rasulallah, pour que Allah lui donne la bénédiction dans ce qu'elle a donné. Le beurre que la fille, la jeune fille, a donné au Prophète, elle a vidé tout le récipient, il n'y avait rien. Mais Rasulallah, il a fait dua, il lui dit, prends ce récipient et tu le donnes à Umm Sulaym. Et quand Umm Sulaym est revenue, elle a trouvé encore plein de beurre qui déborde, au point où elle a dit que j'ai partagé ce beurre avec les membres de ma famille, avec mes proches, elle a donné à tout le monde. Elle dit, et nous avons mangé de ce beurre pendant presque 2 mois. Le dua qui lui a fait Rasulallah. Bien sûr, cette version n'est pas rapportée dans le Sahihain, mais je la cite à titre d'exemple. Sinon, les versions qui sont certainement authentiques, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lors d'un de ses mariages, il s'est marié et comme il n'avait pas les moyens, sallallahu alayhi wa sallam, tout ce qu'il avait, il le donnait fi sabilillah et pour le bien des musulmans. Umm Sulaym, elle a voulu offrir un cadeau et participer au mariage du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la préparation de la fête. Elle dit à son fils Anas, prends. Elle a préparé un plat, elle dit à Anas, prends ce plat et tu le donnes au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un plat pour 1, 2, 3 personnes. Et Anas, il va, il rentre chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dépose le plat. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit à Anas, appelle mes compagnons, tu leur dis de rentrer chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais comme la pièce n'est pas grande, donc ils sont rentrés par 10. Anas, quand il a entendu 10, il dit 10, qu'est-ce qu'ils vont manger? Eh bien, il y a 10 qui sont rentrés, ils ont mangé jusqu'à se rassasier. Ils sont partis. Deuxième groupe, 10, troisième groupe, quatrième, cinquième, dixième, ils étaient 300, ils ont tous mangé jusqu'à se rassasier. Et quand ils sont partis, Anas, le prophète lui dit, prends le plateau maintenant. Anas, il dit, la adri, akana akthar hinama wada'tuhu am hina rafa'tuhu. Je ne sais pas, est-ce qu'il est maintenant plus lourd qu'avant ou pas, quand je l'ai déposé. Al-baraka qu'Allah Ta'ala a donné à ce que préparait Umm Sulaym radiyallahu anha. Pourquoi? Parce qu'elle a voué sa vie pour l'islam, l'Allah Azza wa Jal, et pour l'amour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Une autre fois, elle a fait la même chose, mais elle dit à Anas, prends cette nourriture et tu la donnes au prophète sallallahu alayhi wa sallam seul. Il avait très faim, c'était très très peu. Juste pour une personne. Anas a été chez la famille, lui dit, ma mère, Umm Sulaym, elle te donne pour manger ce qu'elle a préparé, mais elle te dit, ça c'est pour toi. Parce qu'elle sait que Rasulallah, il partage tout le temps. Elle lui dit, c'est pour toi. Elle veut que le prophète mange. Il n'a pas mangé depuis 2-3 jours, sallallahu alayhi wa sallam. Eh bien, le prophète, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, rentrez. Il appelle tout le monde. Anas, il dit, c'est fini, le prophète, il ne va pas manger. Eh bien, Anas, quand il a dit cela à sa mère, elle lui dit, chouf, subhanallah, siqa. Elle dit, est-ce que le prophète, tu lui as dit que c'est pour lui? Anas lui dit, bien sûr, je lui ai dit. Alors, elle dit, le prophète, a'lam, il sait ce qu'il fait, sallallahu alayhi wa sallam. 80 personnes qui ont mangé. Ils ont tous mangé jusqu'à se rassasier. Umm Sulaym, radiyallahu anha, qu'est-ce qu'elle va faire? Là, c'est un exemple de personne qui a mérité le paradis, mais regardez, qu'est-ce qu'elle va faire dans le domaine de l'éducation, tarbiya, la tarbiya. Ça, c'est une leçon. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, arrivé à Médine, de la Mecque à Médine, lors de l'Hijra. Umm Sulaym, elle a entendu que le prophète est arrivé. Peu de temps après, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend son fils, Anas. Il a 10 ans. Elle va chez le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et lui dit, Anas, mon fils, je veux que tu le gardes chez toi et tu lui ordonnes tout ce que tu veux, il le fera. Khadim, un servant du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. 10 ans. Eh bien, il a passé les 10 années à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il voyage avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il rentre à la maison avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il sort avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il prie avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que Anas est parmi les plus grands sahaba qui ont rapporté un maximum de hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais la mère, à quoi il a pensé, radiyallahu anha, c'est de prendre son fils chez quelqu'un pour l'éduquer. Elle cherche l'éducation, non pas l'éducation, la meilleure éducation. Ça veut dire, tu dois chercher pour ton fils ou ta fille, pour tes enfants, et pour toi-même, le meilleur, la meilleure éducation, la meilleure école, le meilleur programme, le meilleur, etc. pour gagner la meilleure éducation. L'éducation, ce n'est pas des paroles. Ce n'est pas seulement des paroles. C'est une pratique quotidienne. C'est un suivi. Eh bien, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il prend Anas entre ses mains pendant 10 ans jusqu'à sa mort, sallallahu alayhi wa sallam. C'est une des choses les meilleures qu'il a faites, Umm Sulayn, radiyallahu anha. Le frère de Anas, c'est Abu Umayr, le jeune, l'enfant qui avait un oiseau. Il aimait beaucoup, l'oiseau est mort. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, chauffe, subhanallah, la relation qui liait le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec la famille de Umm Sulayn. Le prophète, il allait de temps en temps chez Umm Sulaym pour se reposer. Et par amour, Umm Sulaym, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle préparait un tapis pour le prophète sallallahu alayhi, pour qu'il se repose en plein midi. Et c'était un tapis en cuir. Eh bien, et comme le prophète sallallahu alayhi, ça veut dire qu'il avait beaucoup de sueur, le prophète sallallahu alayhi. C'est un homme qui avait beaucoup de sueur, sallallahu alayhi. Eh bien, quand il dormait, on voyait la sueur comme de l'eau qui coule sur le front du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui tombait par terre ou bien sur le tapis. On pouvait même remplir des bouteilles de sueur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Eh bien, Umm Sulaym, qu'est-ce qu'elle va faire? Subhanallah, regardez ces gens-là, comment ils pensent, comment ils réfléchissent. C'est incroyable. Le prophète, il vient chez elle, il s'allonge pour se reposer en plein midi. Il fait très chaud. Elle prépare un verre ou une bouteille et elle vient ramasser la sueur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un jour, le prophète se réveilla, il la trouve en train de remplir. Et il lui dit, qu'est-ce que tu fais? Chez nous, si jamais tu trouves quelqu'un en train de remplir, c'est pour sihr. Et un cheveu ou un vêtement ou quelque chose pour aller faire du sihr. Eh bien, le prophète lui dit, qu'est-ce que tu fais? Elle lui dit, ya Rasulallah, je prends ta sueur et je la mets avec le parfum. Et ta sueur, elle fait de ce parfum le meilleur des parfums. Atiyab al-tayyib. C'est la sueur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le meilleur parfum. Le meilleur parfum, c'est la sueur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons dit qu'il y a un homme qui reste coincé dans ta prosternation. Alors, il détestait les mauvaises odeurs et les mauvaises haleines. Donc, Umm Sulaym, elle-même, elle dit wa raja al-baraka li sibyanina. Il utilisait même la sueur du prophète comme bénédiction pour les enfants. Comme faisaient certains sahaba et certains sahabiyat, dans les textes authentiques, ils gardaient certains cheveux du prophète. Et même Umm Sulaym le faisait. Et si jamais il y a quelqu'un de malade, même après la mort du prophète, elle prend le cheveu du prophète, elle le met dans l'eau, puis elle le retire, et elle donne à boire au malade, il est guéri sur le champ, bi'inillahi subhanahu wa ta'ala. C'est une des spécificités du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu le bois directement et rase. Umm Sulaym radiyallahu anha, elle a eu la chance, c'est quelle chance, d'avoir chez elle le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui prie chez elle, parce qu'il lui rendait visite sallallahu alayhi wa sallam de temps en temps. Elle dit wa kana ahyanan yazuruna. Le prophète lui rendait visite. Et watudrikuhu salah, c'est l'heure de la prière. Qu'est-ce qu'il fait? C'est l'heure de la prière. En général, le prophète il priait où? À la mosquée. Mais des fois, il rendait visite soit à des amis, à des sahaba, ou bien à des sahabiyats comme Umm Sulaym. Elle dit Umm Sulaym, watudrikuhu salatu ahyanan. Alors je lui donne, quand c'est l'heure de la prière, des fois il est chez moi, je lui donne un tapis, hasir, et il prend de l'eau, il asperge le tapis avec de l'eau, ensuite il fait la prière chez nous, sallallahu alayhi wa sallam. Imagine, tu as chez toi un endroit où c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a fait le dua, qui a fait le salat, qui a fait la prière. Et même Anas, des fois, il faisait la prière, lui et sa mère, derrière le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Comme dit Anas, j'ai prié derrière le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, la prière de la nuit. Moi et mon frère, derrière le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, et ma mère priait derrière nous. Quelle famille qui a vécu avec le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dans cette ambiance de prière, de dua, de baraka, de bénédiction, de mahabba, d'amour avec le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam? Et une des situations de Umm Sulaym, c'est celle qu'il y a eu avec Abu Talha. Le jour où il a préparé à manger et elle attendait son mari qui est parti à la mosquée pour prier, et ensuite quand il reviendra, ils vont manger ensemble. Et comme Abu Talha avait un enfant, un enfant malade, toujours là, l'enfant, le fils de Umm Sulaym et de Abu Talha, il était malade. C'était encore un enfant, un nourrisson. Il était malade. Alors, Abu Talha est parti, Umm Sulaym, tout d'un coup, elle voit son enfant est mort. Il est décédé. Il est mort. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend un drap et elle le couvre. Abu Talha revient de la mosquée. Il dit, Ya Umm Sulaym, ma fa'ala al-walad, qu'est-ce qu'il est devenu? Elle lui dit, regardez l'intelligence. Elle lui dit, je ne l'ai jamais vu aussi calme qu'aujourd'hui. Est-ce qu'elle est vraie ou pas? C'est vrai. Calme, il est mort. Abu Talha n'a pas compris. Il dit, alhamdulillah, il a cru qu'il était guéri. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle se prépare. Qu'est-ce qu'on fait l'épouse avec son mari? Ils ont passé ensemble des moments de rapport ensemble. Ensuite, elle dit à son mari, elle lui dit, Abu Talha, s'il y a quelqu'un qui te confie un dépôt, un même, ensuite, après un certain temps, il vient le chercher. Est-ce que tu dois le lui remettre ou pas? Il dit, bien sûr, c'est un dépôt, une amana, je dois la remettre. Elle lui dit, tu vas être en colère? Il dit, non, c'est pas normal. C'est pas normal, c'est pas logique d'être en colère. Il m'a confié quelque chose, il m'a laissé cette chose-là pendant X temps, ensuite je serai en colère? C'est pas normal. Comme quelqu'un, par exemple, qui te confie un outil, une machine que tu utilises, une fourreuse, une voiture, tu l'utilises pendant 2 mois, et quand il vient la demander, tu vas être en colère, c'est pas normal. C'est pas normal. Alors là, elle lui annonce, elle lui dit, ton fils, il est mort. Abu Talha, il a voulu un peu réagir, il lui dit, écoute, amen, n'oublie pas, il s'est calmé. Il dit, pourquoi tu ne me l'as pas dit? Il lui dit, eh bien, je préférais réagir de cette manière. Le lendemain, ils ont été chez Rasoul Sallam. Ils ont raconté au prophète Sallallahu Alaihi Wasallam ce qui s'est passé. Le prophète, il a fait du'a pour eux. Il dit, Allahumma barik lahuma fi laylatihima. Qu'Allah Azza wa Jalla leur donne la bénédiction de ce qu'ils ont fait cette nuit. C'est-à-dire, ces rapports qu'ils ont eu cette nuit, Allah Azza wa Jalla leur a donné un enfant qui s'appelle Abdullah. Ce Abdullah, quand il va grandir, il aura des enfants. 7 garçons, tous ils ont mémorisé le Coran kamil, entier. Grâce au dua qu'a fait Rasoul Sallam pour Umm Sulaym et pour la famille de Umm Sulaym. Et à la fin de la vie du prophète Sallam, Umm Sulaym, elle a voulu faire le pèlerinage. Elle a voulu aller au pèlerinage avec le Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mais malheureusement, elle n'a pas les moyens, subhanallah. Elle veut aller au pèlerinage avec Rasoul Sallallahu Alaihi Wasallam. Il y a son mari, Abu Talha. Il y a Anas qui vont au pèlerinage, mais pas elle. Elle n'a pas les moyens. Ils ont les moyens que pour 2 personnes. Alors elle va chez le prophète Sassim. Elle lui dit, Ya Rasulullah, Abu Talha wa ibnuhu yahujjan. Abu Talha et son fils, ils vont au pèlerinage, mais pas moi. Je n'ai pas les moyens. Subhanallah, quel cadeau lui offrira le prophète Sassim? Un des meilleurs cadeaux. Et pour tous les musulmans. Il lui dit, sallallahu alayhi wa sallam, Ya Umm Sulaym, إذا جاء رمضان فاعتمري فإن عمرة في رمضان تعدل حجة معي. Quand ce sera Ramadan, fais l'umra. Et sache qu'une umra faite pendant Ramadan a la même récompense qu'un pèlerinage fait avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est un cadeau qu'il a fait pour Umm Sulaym. Et à la fin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme rapporte l'imam Ahmed, l'imam Muslim, dit, قال النبي صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة, je suis entré au paradis, فسمعت خشفة بين يدي, j'ai entendu tout d'un coup un bruit devant moi dans le paradis, فقلت ما هذه الخشفة, c'est quoi ce bruit, demande à Jibril, فقيل الغميصاء بنت ملحان, أم سليم, elle marche devant le prophète صلى الله عليه وسلم dans le paradis, وعن جابر مرفوعا رأيتني دخلت الجنة فَإِذَا أَنَا بِرْرُمَيْسَا إِمْرَأَتِي أَبِي طَلْحَا. Le prophète me dit, alors pendant que je marchais dans le paradis, j'ai vu Ar-Rumaysa, l'épouse de Abu Talha, au paradis, radiyallahu anha. Hadith rapporté par Al-Bukhari, Muslim, l'imam Ahmed. Il y a encore Asma bint Yazid ibn al-Sakan, il y a encore Umm Waraqa, il y a Umm Hisham, il y a Hafsa bint Umar. Inch'Allah, je laisserai pour une autre fois. Et j'espère que Allah Azza wa Jal acceptera. Je disais, il reste encore beaucoup d'exemples. Aïcha, Hafsa, Umm Waraqa, Umm Hisham, et bien une longue liste de sahaba et de sahabiyat. Ummu Waraqa, radiyallahu anha, bintu Abdillah ibn al-Harith, al-Ansariya, une autre médinoise. Ummu Waraqa, elle est réputée, Ummu Waraqa, comme étant une femme qui a mémorisé le Coran al-Karim. كانت قد جمعت القرآن الكريم أم ورقة. Elle était connue pour l'ibada, pour الصلاة. Elle faisait beaucoup de prières sur le rogatoire. Elle connaissait le Coran, رضي الله عنها. أم ورقة, comme dit الحافظ بن حجر, on décrit أم ورقة, il dit وكانت قد قرأت القرآن, il avait mémorisé le Coran, فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في أن تتخذ في دارها مؤذنا فأذن لها. Et dans Sunan Abi Dawood, hadith sahih, Umm Waraqa, elle demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam si elle pouvait faire de sa maison comme une mosquée pour sa famille. Pour sa famille. Les femmes de sa famille et les enfants de sa famille, et que c'est elle qui dirige la prière. C'est elle qui dirige la prière pour les membres de sa famille, des femmes et des enfants. Pas comme la mode d'aujourd'hui. Les prix cocotte minute de deux semaines. Qui est devenue une femme jurisconsulte en deux semaines, comme elle dit. En deux semaines. Tu veux les savants de, une savante d'aujourd'hui, 5 euros, eh bien tu auras des savants. Yani comme l'exemple de la Virginie, professeur Mufassira, yani vous allez entendre de tout aujourd'hui. Umm Waraqa, elle avait l'iman et la crainte d'Allah Azza wa Jal. Alors le professeur lui a permis de faire chez elle, de diriger la prière pour les femmes qui vivaient avec elle et ses enfants. Et un mu'addin de la famille qui était Sheikh al-Kabir, un homme très très âgé, elle dirigeait la prière. Radiallahu anhu. Umm Waraqa, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit que toi, tu vas mourir shahida. Tu seras martyr. Umm Waraqa, elle sera martyr. Sahaba disait, comment ils appelaient Umm Waraqa? Dès qu'ils voyaient Umm Waraqa passer, ils disaient, tiens, la voici, al-shahida. Femme martyr, alors qu'elle était encore vivante. Il l'appelait martyr. Elle savait qu'elle allait mourir martyr, puisque Rasoul l'a dit. Elle a vécu jusqu'à la mort du prophète sallam. Le prophète sallam est décédé pendant Abu Bakr, le califat de Abu Bakr, pendant le califat de Omar. Et un jour, Omar a remarqué l'absence de Umm Waraqa, parce qu'elle récitait souvent le Coran, le Karim Umm Waraqa. Il a vu qu'il n'y a plus Umm Waraqa, on ne la voit plus, on n'entend plus Umm Waraqa, radiyallahu anha. Qu'est-ce qui s'est passé? Subhanallah, Umar ibn Khattab a fait une enquête. Il a vu que les deux esclaves qui étaient dans la maison de Umm Waraqa, elle avait deux esclaves dans sa maison, et comme on dit dans le fiqh, dabbarat huma, ma yusamma bil mudabbar. Ça veut dire al mudabbar an fi aja. Al mudabbar, c'est un principe dans le droit musulman qui se pratiquait avant, c'est que certains maîtres qui avaient encore des esclaves qui dataient même depuis avant, de dire, de donner à leurs esclaves un affranchissement spontané, automatique au moment de la mort du maître. Ça veut dire qu'une fois que le maître est mort, il devient libre automatiquement. C'est ce qu'on appelle un mudabba. Eh bien, Umm Waraqa, c'est ce qu'elle avait fait comme contrat avec les deux. C'était un garçon, une fille. Un jeune garçon, une jeune fille. Elle leur avait dit, dans le contrat, une fois que je serai décédé, vous êtes libre, fils Alilila. Vous êtes affranchi. Mais eux, ils ont voulu faire précipiter les choses. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Une nuit, ils ont pris un tissu, ils ont mis Umm Waraqa dans le tissu, dans ce tapis, ils l'ont enroulé, ils l'ont étouffé, et l'ont tué. Et Umar ibn Khattab a fait l'enquête, il a vu l'absence des deux personnes, il a envoyé pour les chercher, et les ont rattrapés, et Umar ibn Khattab les a, bien sûr, il leur a donné la peine qu'ils méritaient, et les a tués. Et il est décédé, il est tué plutôt, Shahida radiallahu anha. Quant à Asma bint Yazid bin Sakan al-Ansariya, qu'on appelait Khatibat al-Nisa. Khatibat al-Nisa, c'était la femme déléguée des femmes. Wafidat al-Nisa. Asma bint Yazid bin Sakan al-Ansariya. Dans la bataille de Uhud, son père est tué, martyr, son oncle est tué, martyr, son frère, martyr, son cousin, martyr. Quatre, d'un seul coup, dans la bataille de Uhud. Il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la famille de Bani Abd al-Ashhal, de Bani al-Ashhal, al-Ashhalioun, parce qu'elle faisait partie d'un quartier qui s'appelle Banu al-Ashhal, de Midin. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam que je les ai vus tous ensemble réunis en groupe dans le paradis. La famille de Asma bint Yazid bin Sakan radiyallahu anha. Elle vient un jour chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam et elle dit à Rasulallah, je suis la femme déléguée des femmes, c'est-à-dire les femmes m'ont envoyé pour te poser une question, subhanallah. Elle était une des plus intelligentes des femmes du sahaba, cette Asma bint Yazid. Elle était une des plus intelligentes. Elle dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, regardez à quoi elle pensait. À quoi il a pensé, subhanallah? Il dit, ya Rasulallah, les femmes m'ont posé cette question, elles m'ont envoyé pour te la poser. Vous les hommes, vous allez tout le temps à la mosquée, assister au vendredi, assister à l'jama'a, les prières, les cinq prières, vous allez al-jihad fi sabilillah, vous accompagnez les cortèges funèbres, etc. Nous, on n'a pas tout cela, ça veut dire que vous avez plus de récompenses que nous. Vous gagnez plus de récompenses que nous. Pourquoi cela? Nous aussi, on veut gagner al-hasanat. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout d'abord il s'étonna, il dit, il se retourna vers sahaba, il dit à sahaba, avez-vous jamais entendu une question plus intelligente que celle-ci de cette femme? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Asma, dis aux femmes qui t'ont envoyé que le fait de bien vivre avec son mari, bien se comporter envers son mari, eh bien tu auras toute cette récompense que fait ton mari. Là, ce n'est pas un manque de respect pour la femme de lui dire que toi, tu ne seras rien. Eh bien, tu restes à la maison, tu auras la récompense. Non, le contexte de la question, c'est que cette femme, comme toutes les femmes musulmanes, ou la plupart, elles font comme toute la plupart des femmes, elles font les tâches ménagères, elles font beaucoup de choses à la maison, pour les enfants, pour le mari, jazakallahu khairan, pour nos sœurs. Mais elle veut, elle dit, moi je veux plus. Je veux faire plus, je veux gagner plus de l'hasanat. Comme les hommes. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vu que la vie elle fonctionne de cette manière, que chacun a ses responsabilités et il y a une complémentarité entre les deux, eh bien Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a voulu montrer à la femme l'importance de ce qu'elle fait et la valeur de ce qu'elle fait, en lui disant que ce que peut-être tu crois qu'il n'y a pas de récompense pour le fait de faire ses tâches ménagères ou bien de préparer certaines choses à la maison et d'éduquer les enfants. Si tu crois que tu n'as pas de récompense, eh bien sache que rien que cela, ce que tu fais, qui est très 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 grand et très très difficile, eh bien sache que tu as toute la récompense de tout ce que fait ton mari. Fa radiyallahu anha wa ardaha wa lil hadith baqiya wa sallallahu wa sallam ala Muhammad wa alihi wa sahbihi. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Je rappelle juste que l'objectif principal de ces exemples que j'ai cités, c'est un encouragement, comme a fait le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, d'avoir encouragé les musulmans à gagner le paradis. Les hommes et les femmes, les enfants, les plus âgés, les moins âgés, c'est un encouragement pour chacun de nous, c'est un appel, c'est un rappel, c'est une incitation à gagner le paradis. Comment? Eh bien, en pratiquant les œuvres qu'a cité le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, de ces femmes du prophète ou bien de ces femmes compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakallah.